poule vanille.
Poule vanille.
Pistache. J'aime bien la framboise.
Ouais, je pense que je vais prendre deux poules vanille.
Deux poules vanille.
Je sais pas.
Ouais.
Deux poules vanille. Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane, bienvenue dans Deux Boules Vanille, votre rendez-vous radiophonique estival sur Canal B, tous les jours de l'été à 16h30 et en rediffusion le lendemain matin à 8h30. Deux Boules Vanille, c'est un programme éclectique et protéiforme concocté par les salariés et des bénévoles de Canal B autour de rediffusions de séries documentaires, d'interviews, de projets radiophoniques inédits et de musique, bien sûr. Pour ma part, je vous propose un programme autour des femmes, de leurs droits, des médias et de la démocratie. Quatre rendez-vous le mardi autour du podcast produit par L'Onde Porteuse et le Conseil économique, social et environnemental, CESE, le 25 février dernier. Ce jour-là, les deux structures ont organisé et animé l'événement Femmes et médias, les rencontres de l'égalité. Au programme, des tables rondes, des reportages, des duplex, des chroniques et des débats pour décrypter les liens entre droits des femmes, médias et démocratie. Cette journée d'échange était organisée en partenariat avec Equipop, Ouest France, Reporters sans frontières, Prenons la Une, l'agence La Fronde et L'Onde Porteuse, bien sûr. À cette occasion, un plateau radio s'est installé dans l'hémicycle du Conseil économique, social et environnemental, co-animé par la journaliste Julia Foyce et le fondateur de L'Onde Porteuse, Benoît Bouscarel. Canal B est associé à l'événement, c'est pourquoi je vous propose d'écouter les quatre épisodes enregistré ce jour-là. L'épisode 1 que vous allez entendre dans quelques instants s'intitule « L'information est une résistance ». Julia Foyce et Benoît Bouscarel recevaient la journaliste Salomé Saké pour notamment évoquer son livre « Résister ».
Femmes et médias est un podcast en 4 épisodes enregistré le 25 février 2025 au Palais d'Iéna à Paris à l'initiative du Conseil économique, social et environnemental. Il est produit et réalisé par L'Onde Porteuse. Femmes et médias, épisode 1.
Droits des femmes, médias et démocratie. Les termes du débat. Entretien avec Salomé Saké.
Julia Foyce. Benoît Bouscarel.
Ce premier épisode de Femmes et médias va nous permettre de poser très clairement les termes du débat, d'éclairer de manière précise et croisée les enjeux liés à la défense des droits des femmes et ceux relatifs à la préservation de la qualité de l'information, voire du droit à l'information. Avant de retrouver Salomé Saké, journaliste à Blast et autrice de Résister, quelques mots de Thierry Baudet, président du Conseil économique, social et environnemental, dont l'hémicycle accueille nos échanges.
C'est important pour nous parce que la question des femmes, des droits des femmes, de la cause des femmes est un sujet majeur au cours de cette mandature. Parmi les 82 organisations qui siègent tout au long de l'année dans cet hémicycle, on compte la Fédération nationale Solidarité Femmes. Et puis nous avons une délégation aux droits des femmes et à l'égalité qui est très active. Je peux citer en 2023... un rapport sur l'impact du changement climatique sur les femmes, une prise de position sur la constitutionnalisation du droit à l'avortement, une résolution sur les violences faites aux femmes dans les territoires d'outre-mer, mais aussi, en 2021, un événement sur la diplomatie féministe, un terme qui s'est imposé dans le débat public. Ça, c'est pour la question, j'allais dire, des droits des femmes. Et vous avez évoqué la question des médias. C'est vrai que, vu du CESE, si vous voulez, on est attaché à la démocratie et on est attentif, j'allais dire, aux indicateurs de vitalité ou de santé démocratique. Les droits des femmes en sont un, mais les libertés associatives, la liberté de la presse en sont d'autres. Et on observe que dans les sociétés en général, et y compris dans les médias, dans de nombreux pays, les femmes sont traitées en mineures, au sens où elles ne semblent pas bénéficier de la plénitude des droits des hommes, traitées en mineurs ou parfois comme des minorités à surveiller. Et c'est la raison pour laquelle On a fait aussi, au cours de cette mandature, un travail important sur les médias. On a publié un avis, je crois, qui fera date sur « Agir pour une info fiable, indépendante et pluraliste au service de la démocratie ». On a évoqué le pluralisme des médias, l'indépendance journalistique et aussi la santé économique.
Oui, les enjeux de l'information sont aussi des enjeux dont le CESE se saisit très, très régulièrement, hein, c'est ce que vous nous dites.
Oui, on avait été impliqués dans les états généraux de l'information. Ouais. Et au-delà de cet avis, c'est nous qui avons organisé tout le dispositif de participation citoyenne.
Également avec nous, Agathe Hamel, et je suis ravi de vous recevoir chez vous. Je ne sais pas comment on peut dire, mais enfin, on est un peu installé quand même, Julia, chez les gens du CESE. Vous êtes conseillère au Conseil économique, social et environnemental, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité. C'est précisément parce que l'état des droits des femmes, tout comme le niveau finalement de la liberté de la presse dans les pays, signe, donne un thermomètre, une indication sur la santé démocratique d'un pays, que vous avez voulu cette journée. Agathe.
Oui, c'est exactement ça. Il y a un contexte, on va l'entendre cet après-midi, extrêmement préoccupant de recul des droits humains de manière générale et puis plus spécifiquement des droits des femmes. Et en même temps, il y a une montée des régimes autocratiques partout dans le monde. Mais on a aussi voulu ouvrir ce sujet parce que à la délégation aux droits des femmes, là, sur les trois dernières années, on a travaillé deux enjeux principaux. Les liens entre genre et enjeux environnementaux, d'une part, et l'éducation à la sexualité, à la vie affective et relationnelle, d'autre part. Et on s'est rendu compte que, précisément sur ces deux sujets, il y avait une désinformation massive. C'est pas pour rien. C'est des sujets qui viennent remettre en question un certain ordre du monde, un certain fonctionnement de la société. Donc on a voulu aller documenter ça et s'interroger sur ces enjeux.
Oui, parce que les médias racontent le monde. Disent
oui,
le monde,
sûr.
On en parlera aussi, évidemment.
Bien sûr, les médias racontent le monde. Les médias sont une fenêtre de lecture du monde. Ils le racontent de manière très différente les uns des autres, avec bien évidemment des prismes. En fait, pour nous, la question qu'on a voulu poser, c'est est-ce que dans notre contrat social, aujourd'hui, en France, en Europe, on a un système qui soutient la construction d'une information fiable, juste et indépendante? La réponse, c'est non. Ou en tout cas, c'est un système très fragile. Et quand on voit ce qui advient et ce que ça peut donner, une liberté de la presse qui s'amenuise, on ne peut que craindre ce qui est à venir, mais ça sera bien évidemment aussi l'objectif des discussions tout au long de cet après-midi.
Finalement, c'est ce qu'on va interroger aujourd'hui aussi, c'est le rôle fondamental des médias dans une démocratie.
Tout à fait, c'est l'objectif. La liberté de la presse, c'est un corollaire de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion. Ça fait partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a une citation de Hannah Arendt qui est assez éclairante à ce propos, qui dit que quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Et on peut faire ce qu'on veut d'un tel peuple. Et je crois que toute cette pensée sur le totalitarisme, le lien avec la liberté de la presse, l'exercice de l'esprit critique et la participation des citoyens à la construction de la démocratie, c'est un enjeu extrêmement dominant aujourd'hui. Si je peux conclure...
Oui, il y a des enjeux aussi sur l'éducation aux médias.
Oui, sur l'éducation aux médias, j'avais quand même envie d'en dire un petit mot parce que c'est pas l'enjeu de cette séance plénière, mais bien évidemment, quand on parle d'esprit critique, l'éducation aux médias, c'est un enjeu fondamental. Le CESE a d'ailleurs rapporté un avis sur cet enjeu, enfin sur cette question. Et finalement, il faut aussi qu'on apprenne à naviguer dans cet océan informationnel qui n'est pas limité aux seules entreprises de presse. Enfin, il y a aussi tous les réseaux sociaux et plein d'espaces d'information et de transition des informations. Et l'éducation aux médias, c'est comme l'éducation à la sexualité. C'est pas que pour les jeunes, en fait. C'est tout au long de la vie qu'on peut s'éduquer. Et donc, j'avais envie que les auditrices et les auditeurs prennent conscience que c'est déjà un pouvoir d'agir, en fait, que d'avoir envie de s'informer correctement et d'aller chercher des outils pour le faire.
Merci à tous les deux. Merci, merci. Thierry Baudet. Merci Agathe Hamel.
Merci.
Ils ont déjà disparu, Julia. Je vous propose qu'on accueille notre première invitée de l'après-midi, Salomé Sacquet.
Droits des femmes, médias et démocratie. Les termes du débat. Entretien avec Salomé Sacquet.
Julia Foyce,
Benoît Bouscarel.
Bonjour Salomé Sake.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Blast. Vous êtes autrice de « Sois jeune et tais-toi », plus récemment de « Résister ». Essai dont on va beaucoup parler, je pense, avec Julia Foyce, un essai qui a beaucoup fonctionné, qui parle évidemment de cette fonction essentielle de la résistance, et on va détailler là-dessus. Merci d'être avec nous cet après-midi au CESE. Le CESE, c'est la maison des associations, c'est la maison des syndicats. Vous dites, Salomé Sake, dans Résister, que la société civile est un lieu, un endroit de résistance, c'est-à-dire qu'ici, on est donc dans un endroit où on peut célébrer, en appeler peut-être à la résistance ?
En appeler en tout cas au renforcement de la démocratie et à la protection de la démocratie, puisque ça a commencé à être évoqué, c'est ça qui est menacé aujourd'hui. Et évidemment, des assemblées comme celle-ci sont des endroits où on peut faire démocratie, où on peut se parler, où on peut vous produisez beaucoup de rapports. Il y a énormément de choses qui se font au CESE et ça fait partie du processus démocratique. Et de manière générale, toutes les personnes qui appellent à détruire ces endroits-là où on peut se rassembler, où on peut se parler, où on peut s'organiser aussi, ce sont souvent des personnes qui vont vouloir affaiblir les contre-pouvoirs, affaiblir la démocratie. Et ce que je rappelle dans Résister, qui a un titre certes un peu fort, puisque Résister, voilà, c'est un terme qui est très connoté, mais c'est surtout un livre qui rappelle les faits sur certaines mouvances politiques, en l'occurrence l'extrême droite, sur les dangers démocratiques que ça peut représenter. Et c'est de la documentation avant tout, et c'est un appel à la résistance via l'information. Donc, après, le reste, c'est des pistes pour expliquer dans les régimes d'extrême droite qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, il se trouve que les instances, alors il n'y a pas forcément d'équivalence du CESE, mais en tout cas les syndicats, les associations, ce qui permet à la société civile de se mobiliser, de se rassembler, de participer au processus démocratique, parce qu'on le rappelle, ce n'est pas que le vote, ce n'est pas que le moment des élections, et bien à chaque fois, ces régimes d'extrême droite s'attaquent à ces instances et ce n'est pas un hasard.
C'est un titre peut-être un peu osé, mais c'est un titre qui nous place dans une époque, qui dit quelque chose du contexte.
On l'entend, on le voit absolument partout. C'est comme si on basculait sans cesse entre deux réflexes. Celui qui nous fait dire « ici, ça n'arrivera jamais », le fascisme. Et puis celui qui nous fait dire au contraire « de toute façon, on y est déjà ». Est-ce que finalement, ce que vous proposez, résister, c'est une troisième voie possible entre le déni total et le fatalisme ?
Je pense qu'il faut rappeler que dans l'histoire, la plupart des régimes autoritaires ne se sont pas mis en place du jour au lendemain. On ne bascule pas du jour au lendemain, c'est assez rarement très soudain. C'est souvent un processus long, pernicieux, fait de petits renoncements que nous acceptons collectivement. Et c'est sur ça que j'ai voulu alerter. Aujourd'hui, nous ne sommes absolument pas en dictature. On est encore en démocratie. Une démocratie abîmée, une démocratie entravée de plus en plus, mais une démocratie quand même. On peut être là aujourd'hui, je peux parler librement, je ne risque pas ma vie. Et ça, c'est très précieux. Et il s'agissait dans ce livre, justement, de rappeler que ces droits-là ne sont jamais complètement acquis et qu'on se doit de les protéger. Et j'ai écrit le livre durant l'été 2024 en voyant bien les dégradations mondiales qui étaient en train de se produire. Ça parle de la France, mais ça, c'est une France qui s'inscrit dans un contexte international qui est dangereux. Quand on a couvert la campagne des élections américaines, donc aux États-Unis pour Blast, on parlait déjà de risque fasciste, non pas parce que nous, journalistes, trouvions qu'il y avait un risque fasciste, mais parce que des spécialistes, tels que l'historien Robert Paxton, disaient que ce risque était, selon lui, réel. On nous a dit qu'on exagérait. Et là, je pense que de plus en plus de personnes sont en train de se rendre compte de l'ampleur de la destruction démocratique qui est en cours aux États-Unis. Et il est beaucoup plus facile de résister au sens de protection, consolidation des instances démocratiques, de le faire dans le cadre d'un régime démocratique. Nous, aujourd'hui, pour moi, on fait vraiment face à une dérive, à un risque, mais on n'y est pas encore, que de le faire une fois que ce régime est installé, comme c'est en train d'être le cas aux États-Unis, où il est beaucoup plus difficile de résister qu'en France.
On reviendra sur les États-Unis tout à l'heure.
Vous avez choisi le mot « résister » et pas « militer », j'imagine, à dessein. Pourquoi ?
Parce que ça reste un livre qui est avant tout un livre d'information. Et je pense que le journalisme fait partie des contre-pouvoirs, il n'est pas complètement détaché de la société dans laquelle il opère. Le journalisme a du sens dans le cadre d'une démocratie parce qu'il sert, selon moi, à informer les citoyens et les citoyennes pour qu'ils puissent prendre les décisions les plus éclairées possibles, parce que l'avis des citoyens dans une démocratie où ils ont toute plein de formes de participation différentes, a un poids et est donc important. Et c'était une manière de rappeler quel est le rôle du journalisme, quel est le rôle de l'information. Et en réalité, il est très tourné autour de l'information parce que c'est ma manière à moi de résister en tant que journaliste. Le journalisme est un des très nombreux piliers de la démocratie. Et on ne peut pas, je crois, en tant que journaliste, rester neutre face aux périls en cours, face aux personnes qui veulent rétablir des discours discriminants, face aux personnes qui veulent rétablir les discours déshumanisants qui sont en train aujourd'hui de poindre dans l'espace public. C'était une manière de rappeler que l'information, c'est une résistance. Et ce n'est pas un hasard si les partis d'extrême droite s'attaquent aux instances de l'information, s'attaquent aux médias avec autant de virulence. Et on le voit encore une fois aux États-Unis, qui pour moi n'est pas du tout détaché de la France. Bien sûr qu'il y a des différences, mais c'est pour moi un pays qui a peut-être quelques années d'avance sur nous, mais auquel on n'est pas, forcément certain d'échapper à une forme de trumpisme en France. Donc regardons ce qui se passe aux États-Unis. L'information est en train d'être totalement détruite. Je rejoins totalement ce qui a été dit par Agathe Hamel sur cette citation d'Anna Arendt. L'objectif, quand on inonde... Là, je vais reprendre les termes de Steve Bannon, conseiller de Donald Trump en 2019, qui dit que la stratégie donc de son parti, l'extrême droite, c'est d'inonder la zone de merde. Ce sont ces termes. Parce que quand « flood the zone of shit », et quand on fait ça, effectivement, le résultat, c'est pas que tout le monde va croire ces fake news. Le résultat, c'est que on est complètement brouillé. Il y a trop d'informations, il y a trop de propos chocs, et on n'arrive plus à avoir des débats calme, des débats constructifs autour de faits sourcés. On peut avoir des désaccords sur les opinions, mais on doit pouvoir se retrouver sur certains faits. Et c'est pour ça que l'information est un endroit de résistance. Moi, ce que je défends, c'est cette réalité commune qu'on doit conserver. On peut garder, et on doit garder évidemment, une diversité d'opinions, mais restons d'accord sur ce qui est vrai, sur ce qui n'est pas vrai. Et le fait que l'information soit attaquée, que la science soit attaquée, ce n'est pas un hasard. C'est ce qui démobilise et paralyse les citoyens dans leur capacité à se mobiliser. C'est ce qui m'inquiète beaucoup en tant que journaliste aujourd'hui, et c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans le livre, que partager de l'information, c'était une forme de résistance, et le reste, c'est une manière de dire « mettez-vous en action ». Moi, je suis journaliste, mon rôle, c'est de partager de l'information, de faire en sorte qu'elle soit la plus accessible possible. Votre rôle, dans vos territoires, dans vos professions, dans vos domaines d'action, avec votre expérience, est probablement peut-être autre, et vous avez tout un toute une créativité que je n'aurais pas. Et c'est un appel, c'est pour ça que c'est vraiment un appel démocratique, c'est un appel à ce que chacun utilise ses compétences, son savoir, pour qu'on puisse réussir à faire face à ça ensemble. Et si on ne le fait pas, je pense qu'on va se retrouver dans un glissement extrêmement dangereux, et il sera beaucoup plus difficile d'agir dans quelques années que maintenant.
Vous évoquiez à l'instant l'impossible neutralité dans un contexte comme le nôtre, et en particulier quand on est journaliste, les mots ne sont pas neutres. Ce sera le thème de notre premier plateau dans une vingtaine de minutes. Est-ce que vous, dans votre pratique journalistique, on vous a reproché de ne pas être neutre et d'être trop militante? Je vous vois lever les yeux au ciel, je pense que
oui, bien sûr.
Ça évoque un certain nombre de choses.
Mais c'est pour ça que je ne me revendique pas de la neutralité, et je ne m'en suis jamais revendiquée. Je pense que c'est une manière, voire une figure rhétorique bien pratique pour décrédibiliser. C'est-à-dire qu'on ne m'attaque rarement sur les faits que j'expose. On va essayer de me décrédibiliser par cette figure en disant « de toute façon, je suis militante ». On ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Ce dont, effectivement, je ne me réclame pas du tout, parce que le militantisme, déjà, est quelque chose de très sérieux. Je rappelle que s'il n'y avait pas eu des militantes, je n'aurais pas le droit de voter, je ne serais pas là sur cette scène, je n'aurais pas le droit de travailler, le droit d'avoir toute cette indépendance. On n'aurait pas la sécurité sociale s'il n'y avait pas eu des militants. Donc le militantisme, pour moi, est quelque chose de très noble, mais c'est pas ce que je fais. Moi, je ne vais pas faire du lobbying, je ne vais pas organiser des manifestations, des pétitions. Non, moi, mon travail, c'est de partager de l'information sourcée, de l'information vérifiée, en respectant la déontologie journalistique, la charte de Munich, en l'occurrence, à laquelle on se réfère. Et on le fait chacun et chacune dans nos styles différents, mais je crois qu'aucune personne n'est neutre, aucun journaliste n'est neutre. Et dire qu'il y aurait les journalistes neutres et les journalistes qui ne seraient pas neutres, c'est pour moi une manière d'établir une hiérarchie des idées et une hiérarchie de ce qui serait le bon regard. Et Alice Coffin, qui était journaliste aussi, a expliqué que souvent, ce qu'on nous présente comme l'objectivité en journalisme, c'est la subjectivité des dominants. C'est un regard particulier. Je prends juste un petit exemple, parce que cette question de neutralité, elle est centrale. Si on remonte quand même à très récemment, dans les années 2010, quand il y a eu le débat pour le mariage pour tous, Dans beaucoup de médias, la neutralité a consisté à donner 50% de temps de parole à des personnes qui refusaient des droits fondamentaux à la communauté LGBT et des personnes qui, tout simplement, réclamaient d'avoir des droits comme ceux de tous les autres. Ça, c'était la neutralité. C'était se positionner voilà, un peu au centre. Aujourd'hui, je pense que cette neutralité s'est déplacée, parce que nous avons collectivement accepté que c'était normal que nous ayons toutes et tous le même droit, notamment dans l'accès au mariage. Donc en fait, il y a toujours un point de vue duquel on se place. Moi, j'assume mon point de vue, j'assume mes valeurs, et j'essaie de dire, voilà les informations vérifiées. Maintenant, la stratégie de l'extrême droite consiste à dire que nous sommes militants. Et ce qui est intéressant, et ce que je vois de plus en plus, c'est qu'il y a quelques années, ça allait être les médias web, qui allaient être des médias désignés comme militants pour les décrédibiliser. Je pense notamment à Mediapart, à Blast, voilà, qu'on fait les frais de ça. Aujourd'hui, c'est tellement en train de se décaler que le service public, le journal Le Monde, sont des journaux qui commencent à être qualifiés de militants. Et si on regarde aux États-Unis, qui encore une fois pour moi est le pays où ça pousse plus loin la logique, une agence comme Associated Press, qui est l'équivalent en France de l'AFP, qui est une des plus grosses agences au monde, a été qualifiée de militante par Donald Trump pour l'usage d'un terme, Golfe du Mexique, au lieu de Golfe d'Amérique, qui vient de... Vous parlerez plus tard de l'usage des mots. Et vient de se voir refuser l'accès à la Maison Blanche et donc à des informations cruciales pour, soi-disant, des accusations en militantisme. Donc, en fait, c'est très dangereux, ces accusations en militantisme. Moi, je pense que ce qui permet et ce qui doit permettre de juger un média ou un journaliste, c'est est-ce que les faits sont recoupés, est-ce qu'il y a une honnêteté intellectuelle et est-ce qu'il y a la capacité aussi à reconnaître ses erreurs, ce qui, je crois, parfois nous manque dans le journalisme. Moi, je ne proclame pas du tout détentrice de la vérité. Je peux faire des erreurs et il s'agit tout simplement de le reconnaître quand on le fait. Et c'est comme ça qu'on a des débats constructifs comme peut-être vous avez ici. Et pour moi, il faut qu'on change un peu notre jumelle, je sais pas comment dire ça, mais la manière dont on regarde les choses et arrêter de penser que le journalisme doit être neutre à tout prix puisqu'il ne l'est jamais.
Oui, c'est ce que dit d'ailleurs la charte de 71 aussi. Hein. Oui. Les faits sont là, en fait, et doivent être respectés. Est-ce qu'on a fait une erreur, Salomé Sacquet, dans les années 80, quand on a ouvert les plateaux de télé? Alors, c'est une question peut-être qui arrive un peu à contre-temps maintenant, mais quand même, quand on vous entend, on se pose cette question, et on se remémore. En tout cas, moi, je me remémore les années 80 avec ce débat. Est-ce qu'il faut ouvrir les plateaux de télé à l'extrême droite?
En tout cas, ce que je constate, c'est qu'on a ouvert la fenêtre d'Overton à l'époque en le faisant. C'est-à-dire qu'on a ouvert le champ de ce qui était acceptable dans le débat public. Et qu'on le veuille ou non, nous avons toujours, en tant que journalistes, posé des limites de ce qui était acceptable ou ce qui ne l'était pas. Par exemple, aujourd'hui, sur un plateau de télévision, on n'entend pas quelqu'un défendre le système esclavagiste. Parce qu'on considère collectivement que c'est absolument inadmissible et qu'il n'est pas, ce n'est pas une option que de revenir à ça. Donc il y a toujours des endroits où de toute façon nous n'allons pas. Pendant longtemps, nous ne sommes pas allés jusqu'à l'extrême droite après la Seconde Guerre mondiale en France. Effectivement, dans les années 80, il y a eu un tournant. On a commencé à faire rentrer ces opinions, qui étaient des opinions ouvertement racistes, homophobes, sexistes, dans le champ de ce qui était acceptable. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette fenêtre d'Overton est en train de s'élargir de plus en plus à l'extrême droite. Quelle est la conséquence de ça? C'est que plus on l'élargit à des idées radicales, haineuses, plus les idées qui étaient considérées comme radicales et haineuses il y a encore quelques années sont en train de devenir des idées modérées, considérées et perçues comme modérées parce qu'il y a encore plus radicales. Donc moi, j'alerte là-dessus. Encore une fois, je prétends pas détenir, moi, la vérité de ce qu'on doit faire rentrer ou pas, mais simplement, prenons conscience de la dynamique qui est en cours parce que ce n'est pas anodin. Encore une fois, on est absolument pas neutre et on peut vraiment documenter cette droitisation du paysage politique et médiatique français.
Dans Résister, vous citez une sénatrice écologiste, Mélanie Vogel, qui indique qu'il suffirait de 18 mois en France pour sabrer tous les contre-pouvoirs dans le cadre d'un régime autoritaire. Comment vous voyez les choses aux États-Unis aujourd'hui?
Aux États-Unis, là, effectivement, la situation est quand même assez critique. Il y a des attaques répétées à l'endroit de la justice, à l'endroit de la presse. Il y a des dizaines et des dizaines de décrets qui ont déjà été passés. Si vous allez regarder les graphiques, c'est beaucoup, beaucoup plus que n'importe quelle autre présidence avant cette deuxième mandature de Donald Trump. Donc ça va très, très vite. Là encore, c'est la même stratégie qu'avec les médias, c'est-à-dire qu'on inonde d'action en justice, d'action politique, l'espace public, si bien que même les journalistes n'arrivent pas à tout analyser parce que ça va trop vite. Mais ce qu'on constate, c'est vraiment qu'ils sont en train de s'affranchir de la loi. En fait, on fait et puis on se pose la question plus tard. Et ils sont donc en train de s'affranchir de la loi, du droit d'informer. Il y a vraiment des attaques répétées contre la presse. Et de manière générale, on constate une émergence des discours discriminants, haineux. Je vais vous donner un exemple
qui montre cet élargissement de la fenêtre d'Overton à des points vraiment assez fous aux États-Unis. Ce week-end, il y a une vidéo qui a été publiée par la Maison-Blanche, donc le compte officiel de la Maison-Blanche aux États-Unis, qui est une vidéo d'ASMR. L'ASMR, vous savez, c'est quand on fait des petits bruits devant des micros, peut-être pour celles et ceux qui ne savent pas. Si je fais ça, ça peut être considéré comme de l'ASMR. C'est censé procurer un état de bien-être, voilà, pour certaines oreilles. C'est une tendance sur Internet depuis des années qui se veut soit humoristique, soit réellement satisfaisante. Ils ont récupéré cette tendance pour faire une vidéo avec des images de déportation de migrants et des sons de personnes qui sont en train d'être déportées de force, comme pour se moquer ou pour provoquer une forme de jouissance. Ça, c'est une percée très inquiétante de propos déshumanisants, de discours déshumanisants. Ce n'est pas seulement une opinion politique qui serait « faudrait qu'on déporte des personnes », c'est « réjouissons-nous collectivement de la souffrance d'autrui ». Ça, c'est un pas qui est en train d'être franchi. Et en fait, tous les jours aux États-Unis, il y a des pas qui sont en train d'être franchis. Ça va si vite que c'est très compliqué de tout analyser. Oui. Et on est, pour beaucoup, sidérés, et particulièrement aux États-Unis. Ils ont beaucoup de mal, là, actuellement, à mettre en place des mouvements de résistance, parce qu'il n'y a plus de contre-pouvoir, qu'ils ont le Congrès avec eux, qu'ils ont le Sénat avec eux, que les opinions ont vraiment été largement répandues dans la population. Donc, je dis pas que c'est impossible, mais ça va être complexe. Et j'espère qu'en France, on n'en arrivera jamais là.
Et qu'un juge fédéral vient de donner raison à la Maison-Blanche quand elle refuse l'accès à cette presse aux conférences de Trump. Justement, vous bossez sur les États-Unis à Blast depuis quelques mois. Comment vous voyez les choses par rapport à ce que vous avez écrit dans Résister, qui effectivement, ça paraît être un autre monde aujourd'hui. C'était déjà très inquiétant, mais on voit que les choses ont évolué tellement vite. Comment des résistances, des mouvements de résistance peuvent se mettre en place aux États-Unis ?
Alors, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué à dire. Déjà, je pense qu'il y a un effet de sidération collective. Mais moi, pourquoi est-ce que je m'intéresse aux États-Unis ? Parce qu'une France où nous serions gouvernés par l'extrême droite, et là l'extrême droite serait complètement seule sur la scène internationale, n'a rien à voir avec une France gouvernée par l'extrême droite et qui a des alliés extrêmement puissants comme Donald Trump, Viktor Orban, Giorgia Meloni, toute cette alliance réactionnaire qui est en train de se créer à l'international. Javier Milei, bien sûr, en Argentine. Et ce qu'on constate, c'est qu'ils sont en train de s'allier, de mener des coalitions qui sont pensées, qui sont stratégiques. Ils se sont réunis à Madrid il y a 2 semaines. Ils se sont réunis le week-end dernier à Washington. On rappelle que Jordan Bardella était présent à cette conférence où Steve Bannon a fait un salut nazi, sans équivoque. C'est la deuxième fois que ça arrive avec une telle audience aux États-Unis. Donc là, il y a vraiment un mouvement mondial qui est en train de se créer. Et aux États-Unis, alors je suis pas non plus complètement spécialiste du pays, je veux pas dire ce qu'ils devraient faire exactement, mais on voit déjà des mouvements, notamment du côté des scientifiques, puisqu'ils sont en train d'annihiler la recherche scientifique. C'est un des endroits qui est le plus visé. Et donc, il y a déjà des mobilisations, des associations, des appels à la manifestation, comme il y a eu aussi le week-end dernier. Mais je vais pas vous dire que c'est massif. Là, ce qu'on constate, c'est surtout que c'est un rouleau compresseur de lois, de répression, de discours déshumanisants, de discours haineux, le tout sur fond de crise géopolitique majeure. On rappelle, avec un détournement des termes et un détournement des faits qui va si loin qu'il y a encore quelques jours, et je dirais même qu'il y a encore hier, Donald Trump a requalifié Zelensky de dictateur, a rappelé que selon lui, c'est Zelensky qui aurait déclenché la guerre en Ukraine, ce qui est donc complètement faux. Nous avons tous été témoins du fait que ce n'est pas ce qui s'est passé, et que Poutine, en revanche, n'était pas un dictateur. Donc en fait, on se retrouve vraiment dans quelque chose qui est très choquant, il y a des multicrises. Encore une fois, en France, on n'en est pas là. Et je crois que notre priorité, c'est de se dire comment on arrive là, collectivement, à rester en démocratie. C'est très, très important pour pouvoir se poser la question de comment on fait face à ce qui est en train de se passer en tant que France et en tant qu'Europe.
Ça a même choqué Murdoch, hein. Oui. Le changement de désignation des dictateurs.
Non, on parlait des États-Unis, évidemment. La première chose qui, moi, me vient à l'esprit, compte tenu des sujets qui me préoccupent et qui nous préoccupent, ici, c'est la question des femmes. On a vu ce qui s'est passé sur la question de l'avortement, mais pas seulement. Vous le dites et vous le répétez dans votre essai, l'extrême droite n'est jamais l'ami des femmes. Jamais, jamais, jamais. Est-ce que, à ce compte-là, le féminisme est en première ligne de cette résistance-là, est un outil de résistance aussi ?
Le féminisme, oui, mais on rappelle encore une fois ce que c'est le féminisme, qui est un terme qui est en train d'être connoté. Le féminisme, c'est la lutte pour une égalité entre les hommes et les femmes, notamment une égalité en droit. C'est vraiment de ça, quand même, dont il est question. Et effectivement, les droits des femmes sont attaqués. Si on veut juste décrire, encore une fois, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, il y a eu cette révocation du droit à l'avortement dans de nombreux États. Et ce qu'on constate, là, pour essayer de comprendre un peu ce qui s'y passe, c'est que Donald Trump est en train de suivre la feuille de route de la Heritage Foundation, qui est une association de conservateurs, d'ultra-conservateurs d'extrême droite, qui a donc créé un espèce de programme de 900 pages, qui est tellement choquant que même Donald Trump, pendant sa campagne, s'en était détaché, même en fustigeant certaines des mesures. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'il est en train de reprendre des dizaines de ces mesures, qu'il a nommé des personnes qui ont établi ce programme à la tête de postes clés aux États-Unis. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en route. Il y avait bien sûr cette révocation du droit à l'avortement pour les femmes qui était inscrite, mais aussi une remise en cause de la contraception. Donc, en fait, on voit qu'on va toujours plus loin. Et en France, on rappelle que dans le parti du Rassemblement National, il y a des personnes qui sont ouvertement anti-avortement, qui parlent même de l'avortement comme étant une Shoah. C'est des termes qui ont été employés. On rappelle que Marine Le Pen elle-même parlait il y a quelques années d'avortement de confort. Donc oui, il y a une offensive qui est faite pour les droits des femmes. C'est pas toujours aussi assumé, aussi évident que ça n'est le cas aux États-Unis, surtout dans un pays où on est quand même assez attaché aux droits des femmes, mais c'est les fameux terme de Simone de Beauvoir qui disait que nos droits ne sont jamais acquis et qu'on doit toujours se battre contre ça. Mais encore une fois, c'est pas qu'une question de droits des femmes, c'est une question de droits des minorités de manière générale, c'est une question de réussir à préserver les droits des plus vulnérables aussi dans cette société. Et c'est ce que fait l'extrême droite au fond, c'est pas que remettre en cause les droits des femmes, c'est réasseoir des dominations multiples, notamment des dominations qui peuvent être racistes. C'est vraiment tout un tas de dominations qu'ils essaient de remettre en cause au nom de la liberté. Et la doctrine de l'extrême droite, pour y avoir travaillé, pour travailler dessus depuis quand même un moment, c'est vraiment de défendre la liberté de quelques-uns au détriment de celle de tous les autres. Et c'est ça dont j'aimerais parler aussi, c'est qu'au nom de cette liberté-là, ils défendent le droit de tenir des propos haineux sur Internet, ils défendent le droit de monopoliser certaines ressources. En fait, on est vraiment dans cette idée-là, donc il faut qu'on arrive, encore une fois, à avoir ces débats pour prendre conscience d'à quel point nos droits sont précieux et à quel point ils doivent être consolidés et non pas décousus.
Je ne sais pas si vous avez eu le temps, Salomé Sacquet, en arrivant dans cet hémicycle, de regarder l'exposition qui est dans la salle juste derrière, exposition d'RSF sur des femmes journalistes qui luttent.
J'y vais juste après.
Qui résistent, promis. Hein. Et dans cette exposition, on apprend, et on le savait déjà, mais le chiffre est quand même hallucinant, qu'une femme journaliste a 27 fois plus de risques d'être harcelée pour son travail de journaliste. Alors, par les pouvoirs, mais peut-être aussi par les internautes.
Surtout par les internautes.
Et surtout, ou par des trolls, que les hommes. Comment vous allez, vous ? Ça me donne envie de vous poser cette question, Salomé Sacquet, parce que vous avez payé, vous, là, le tribut de la résistance, en étant harcelé très régulièrement. Vous faites partie, d'ailleurs, de cette exposition. Vous êtes aussi une des figures de cette expo. Comment allez-vous ?
J'ai appris à faire face à ce type de harcèlement, qui effectivement est très intense ces derniers temps depuis la publication du livre. Mais vous l'avez rappelé, une femme a 27 fois plus de probabilité d'être harcelée à partir du moment où elle s'expose sur Internet. Et ça vous concerne aussi vous. C'est-à-dire que ça concerne aussi les personnes qui sont pas particulièrement exposées dans l'espace public. Ça concerne toutes les femmes, quelles que soient leurs opinions politiques. C'est ce qu'on constate à chaque fois. 73% des femmes journalistes ont déjà été victimes d'harcèlement intense en ligne. Il y a une bonne partie d'entre elles, un tiers d'entre elles, qui dit avoir pensé à arrêter le métier à cause de ça. C'est des chiffres qu'on pourrait étendre aux actrices, aux chanteuses, à toutes les femmes qui prennent la parole de quelque manière que ce soit dans l'espace public. Et c'est un des nouveaux endroits où on peut asseoir une domination qui est très féroce à l'endroit des femmes, des minorités. Et moi, c'est vrai que je parle pas mal de ce cyberharcèlement parce que c'est, je pense, un des aspects qui est encore le plus minimisé aujourd'hui. On me dit souvent, mais si tu reçois autant de menaces de mort, de menaces de viol, parce que c'est quand même de ça dont il est question, tu n'as pas qu'à t'exposer.
Tu sais à quoi tu vas faire face. Et ça, c'est exactement la même rhétorique qu'on a utilisée pendant des années pour prévenir les femmes qui allaient sortir dans la rue avec une mini-jupe en disant « si tu ne veux pas être agressée ou être harcelée, tu n'as pas qu'à t'habiller comme ça ». Donc on a besoin de changer ces espaces en ligne. Et là encore, nous sommes soumis aux décisions des Américains puisque ces espaces sont en train d'être encore plus dérégulés qu'ils ne l'étaient déjà, notamment par Elon Musk et par Mark Zuckerberg. Si on leur réseau réuni, ça représente plus de la moitié de l'humanité, hein, pour vous donner une idée. Donc c'est vraiment des endroits où il va falloir que nous, peut-être, on régule. Mais aujourd'hui, effectivement, le prix est lourd, quelle que soit notre activité, quel que soit ce qu'on a envie de dire. Mais effectivement, je crois que le prix est encore plus lourd quand on prend des positionnements politiques, comme je le fais, qui sont de dire « protégeons la démocratie, protégeons les droits humains ». Et il y a une espèce de, il y a une forme de double peine, effectivement, quand on est une femme, où c'est déjà complexe, mais on reçoit un dénigrement qui est massif, juste... Pour vous donner une idée, dans mon cas, on parle parfois de milliers et de milliers de messages haineux en l'espace de quelques jours, et je suis pas la première à raconter ça. Donc il est temps qu'on prenne ce problème au sérieux. Moi, j'en parle parce que ça va, justement, pour répondre à votre question. J'ai appris à composer avec ça, j'ai appris à mettre en place des choses dans ma vie pour y faire face, mais en tant que toute jeune journaliste, ça a été profondément choquant, bouleversant de vivre ça, et j'ai même parfois failli arrêter. Donc imaginez peut-être des adolescentes qui un jour font face à ça. Imaginez des femmes qui, dans le cadre de leur travail, parce que ça a été mon cas, se retrouvent du jour au lendemain à recevoir des images réalisées avec l'intelligence artificielle qui les mettent dans des positions pornographiques, qui les déshabillent. Imaginez le choc que ça peut être. Il est vraiment temps qu'on s'occupe de ça collectivement.
Et merci de tenir.
J'ai une dernière question pour vous, Salomé Sacqué. Vous insistez souvent sur la nécessité du lien humain, sur le pouvoir du collectif et sur le pouvoir de la joie aussi. C'est par là qu'on peut y arriver.
Oui, et c'est marrant parce qu'on m'interroge beaucoup là-dessus et ça a été un endroit où on m'a beaucoup critiqué parce qu'effectivement, je pense que même pour faire ce travail de journaliste, j'ai besoin de trouver de la joie et j'ai besoin de trouver du sens et du collectif. C'est pas pour rien que je suis dans une rédaction, que j'ai des collègues avec qui je peux discuter, que je collabore tous les jours avec des personnes avec qui je peux construire ces émissions, ce livre. Et ça, c'est très très précieux justement, ce lien humain-là, et je pense que je n'arriverai absolument pas à tenir si j'étais toute seule dans mon coin. C'est parce qu'il y a aussi les autres. Et c'est aussi parce que j'ai des moments de décompression. Et si vous êtes dans cette salle, j'imagine que beaucoup d'entre vous sont engagés dans des domaines très divers de leur vie, mais que le collectif leur importe, sinon vous seriez probablement pas face à moi. Et ce que j'essaie de rappeler, c'est qu'on a le droit, même quand on est engagé, qu'on a une conscience, qu'on se bat pour certaines valeurs, on a le droit d'avoir des moments où on se déconnecte, où on a le droit de prendre du temps sur soi, pour soi. Et c'est pas forcément faire du développement personnel que de rappeler cette évidence. En tout cas, moi, ça me tenait à cœur de le rappeler dans le livre parce que je l'ai souvent pas fait dans mon cas. En tout cas, j'ai mis beaucoup d'années avant de le comprendre. Donc, la joie et le fait de s'occuper de sa santé mentale, en fait, tout simplement, c'est ce qui permet de tenir sur le long terme. Et c'est aussi ce qui permet pour moi de construire les mouvements, de manière générale, dans des sociétés. Là, on fait face à des temps qui sont quand même assez sombres. Si on veut pouvoir continuer à se rassembler, si on veut continuer à pouvoir résister d'une certaine manière, il va falloir qu'on y trouve une forme de joie. Et moi, je suis convaincue que l'engagement peut aussi être source de joie et que ce n'est ni naïf, ni idéaliste que de rappeler ça.
Merci infiniment, merci Salomé Sacqué. Nous avons eu l'immense joie de vous entendre.
Merci beaucoup.
Un grand merci aux membres de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité du CESE qui ont pensé et organisé cette journée et à sa présidente, Agathe Hamel. Présentation, Julia Foyce et Benoît Bouscarel. À la réalisation, Francisque Brémond et Sébastien Morvan de Longue Porteuse et Alexandra Texier du CESE, assistée de Thierry Coué et Alexandre Langevin.
Femmes et médias.
Femmes et médias.
Femmes et médias.
Une production Longue Porteuse.
Pause musicale sur Canal B dans Debout le Vanille. On écoute Brigitte Fontaine et Areski Belkacem, Baby Boom Boom, extrait de Baraka 1980.
De Baltimore à Babelouet, j'ai les bras mis dans les bastringues, avec un burini pipette qui bondait pas pour le burlingue. Dans ce bande branché bipolaire, à faire basculer les belles-mères, j'allais besogner le brouillard avec un tambour de bazar. J'allais baver pour les babas et les broutards à boucles blondes, des petites bulles de baraka et des bonbons pour les James Bond. Baby boom boom, faut faire un break, y'en a ras-le-boc de ces blancs becs qui bondent que pour le bazooka, pour la bagarre et le branle-bas. Baby boom boom, baby boom boom, baby boom boom. Il se braque à bloc sur le baston, des barbes bleues bardées de bronze, des cow-boys bourrés de béton, des zombies bidons et des bonzes qui leur balancent une blanquette, oh, écrabouiller les banquettes, à vous briser les roubignoles, à vous faire barrer de la boussole. Pendant que je brûle de la banquise, braconnant le bonheur sans but et me baignant aux quatre bises avec les boucs de Belzébut. Baby boum boum, faut faire un break, y'en a ras-le-boc de ces blancs becs qui bondent que pour le bazooka, pour la bagarre et le branle-bas. Baby boum boum, baby boum boum, baby boum boum. Ras-le-bec de broute et de bitume et de barre jetée dans une bagnole, ras-le-bec de branler de la brume et de barater des branquignoles. Pendant que les barbeaux du business qui nous bastonnent des bassesses biberonnent des bourbons dans leur buic, je bosse pour pot de balai, crotte de pique. Je vais broyer tous ces bouchers qui se font bronzer la baudruche au Bahamas avec mon blé, pendant que je balise dans les paluches. Baby boum boum, faut faire un break, y'en a ras-le-boc de ces blancs becs qui bondent que pour le bazooka, pour la bagarre et le branle-bas. Baby boum boum, 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 baby boum boum.
Brigitte Fontaine, Areski Belkacem et leur titre Baby Boom Boom, extrait de l'album Baraka 1980 sur Canal B dans Debout le Vanille. L'été, parfois, on fait des rencontres, des bonnes et des moins bonnes aussi, malheureusement. En avril dernier, avec Marine Combe dans Les Héroïnes, on a reçu l'autrice rennaise Jessie Magana pour parler du livre Red Flag en amour, petit guide pour esquiver les relations toxiques. Je vous propose d'écouter ou de réécouter cette interview. Une relation amoureuse ne devrait jamais impacter ta santé physique et mentale et ne devrait jamais porter atteinte à ton intégrité physique. Mais nous sommes parfois tellement en quête de cette belle histoire, de ce coup de foudre que nous laissons prendre dans les défilés que nous aurions évité si nous avions appris à repérer les red flags. Voici ce qu'écrit au début du livre « Red flag en amour, petit guide pour esquiver les relations toxiques » Anne Latuile, thérapeute en psychotraumatologie. Et Anne Latuile, c'est votre co-autrice, Jessie Magana. On est ravis de vous recevoir dans Les Héroïnes. Est-ce qu'on peut, avant de commencer, on commence déjà, mais dire deux mots sur Anne Latuile, qui n'est pas avec nous, qui est votre co-autrice. Qui est-elle, thérapeute en psychotraumatologie?
Alors Anne, elle a écrit ce livre à partir de ses nombreuses expériences de dating et elle s'est inspirée effectivement de son expérience aussi de traumatologue en essayant de les déconstruire et d'être dans une logique de prévention. Donc moi j'ai collaboré à son livre, c'est elle l'autrice principale de ce livre, elle habite à Bayonne, donc je la salue. Mais on a vraiment collaboré main dans la main pour l'écriture de ce livre, pour ouvrir dire, en fait, toutes les expériences qu'elle a vécues elle-même, puis toutes les personnes aussi qu'elle côtoie, qu'elle reçoit, etc., pour l'ouvrir à un maximum de public, filles, garçons, jeunes, moins jeunes, etc.
Effectivement, elle le dit, elle parle de ça, ouais, des dates un peu pénibles qu'elle a pu faire, ou même des débuts de relations où vite on s'aperçoit que ça va pas aller. Parce que c'est quoi justement un red flag ?
Alors, red flag, comme son nom l'indique, c'est un drapeau rouge. Red flag, en fait, c'est un nouveau mot pour quelque chose de très ancien, c'est-à-dire un signe qui doit nous alerter quand on démarre une relation sur la potentielle toxicité de cette relation. Et comme elle le dit très bien dans l'introduction que tu as lue, on est tellement au début d'une relation dans quelque chose d'euphorique, on est baigné d'hormones et on a tellement envie que ça fonctionne on est souvent aveuglé par rapport à des petits signes. Donc l'idée, c'est de les repérer avant qu'ils soient trop tard. Parce que souvent, quand on commence une relation du mauvais pied, ça peut évoluer vite fait vers quelque chose de toxique, voire vers de la violence. Et si on n'est pas suffisamment armé pour repérer ces signes avant-coureurs, on peut vraiment s'enferrer dans quelque chose de nocif pour sa santé physique et mentale.
Voire aller jusqu'au pire et être assassinée parce que femme. Alors, à qui s'adresse ce livre ? On peut dire que ça commence dès les premières relations amoureuses vers, alors moi je dis 15 ans, mais c'est peut-être avant, hein.
Oui, c'est plutôt vers les 15 ans. On le vend au rayon adulte, parce qu'on veut vraiment s'adresser aux jeunes adultes et aux moins jeunes, bien sûr. Mais oui, l'idée, c'est vraiment quand on démarre sa vie affective, sa vie sexuelle. Donc, bien sûr, c'est fluctuant, mais c'est quand même autour des 15 ans. Et l'idée, c'est qu'on puisse s'en servir aussi tout au long de la vie. Même quand on est plus âgé, quand on démarre quelque chose, quand on démarre une relation, c'est une boîte à outils.
Ouais, j'allais vous le dire parce que moi, j'ai pas 15 ans, mais je me disais, en le lisant, je me suis dit, mais en fait, il faut le garder parce que il y a des situations qu'on connaît pas. Enfin, moi, en tout cas, il y en avait. Et je me suis dit, mais pour avoir la puce, ça donne la puce à l'oreille. Dire, j'irai, si ça m'arrive, chercher dans ce guide qui est en fait un abécédaire. Et donc, moi, j'ai fait ma petite sélection. À chaque lettre de l'alphabet, il y a un red flag. Donc, j'en ai sélectionné 4. À la lettre B, on a body count, que je traduirais par les anciennes expressions qui disaient quand un homme a eu beaucoup de conquêtes, c'est un don Juan, et quand un séducteur, et quand une femme a le même nombre de conquêtes, c'est une SALOPE. Voilà. Et donc à B, on a body count, et c'est une expression aussi que j'entends beaucoup, moi, dans les collèges et lycées que je fréquente.
Oui, alors ça, c'est effectivement quelque chose. Ce qui est intéressant à chaque fois pour chaque red flag, c'est de montrer comment ils sont reliés, non pas à une relation individuelle, d'homme à homme, de femme à femme ou de femme à homme, mais à quelque chose de systémique. Or là, dans le body count, on est vraiment sur la société patriarcale qui vise à assigner le ventre des femmes à la reproduction et donc à faire en sorte qu'elles aient le moins de partenaires possible. Donc forcément, la perception que l'on en a depuis des millénaires, c'est de dire que la femme doit arriver vierge au mariage et qu'ensuite elle doit se contenter d'un seul partenaire pour que la pureté du sang soit préservé. Donc ça, on en est encore héritier et héritière dans notre société, et on a beau être passé par la soi-disant libération sexuelle des années 70, par l'essor du porno, par le mouvement MeToo, on est encore vraiment sur cette idée que un homme est autorisé à avoir davantage de relations sexuelles qu'une femme. Et on le voit encore énormément effectivement chez les jeunes. Moi aussi, je rencontre énormément de jeunes dans les collèges et dans les lycées. C'est évidemment décuplé par les réseaux sociaux, c'est-à-dire que voilà, on assiste aussi à du slut-shaming, c'est-à-dire stigmatiser les personnes qui ont des relations plutôt libres, plusieurs partenaires, etc. Et bien sûr, ce sont évidemment les filles qui sont les plus sujettes à ce type de remarques.
J'aime la crème solaire, mais non, mais arrête, vraiment. J'aime la crème solaire sur ma peau, mais surtout sa douceur, son onctuosité, ses vertus protectrices.
À la lettre G, je l'aime bien aussi celui-là. Enfin, quand je dis je l'aime bien, c'est ironique. Hein. On est d'accord, à la lettre G, on a gaslighting. Il est coriace quand même celui-là. J'ai envie de dire, ne cherchez pas à comprendre, à tenter de confondre l'autre, à le mettre face à sa malhonnêteté. Ça ne sert à rien d'autre que vous faire du mal. Inutile, au premier, c'est dans ta tête, fuyez. J'ai envie de dire ça. C'est de la manipulation terrible, le gaslighting.
Oui, alors c'est pas quelque chose de très facile à expliquer pour les personnes qui n'ont pas le background un peu féministe et qui connaissent bien le terme. Le gaslighting, faut remonter un peu à l'origine du terme. Hein. C'est un film de George Cukor qui s'appelle Gaslight, qui est un film des années 30, où on voit un mari qui rend sa femme un peu folle, en fait, en lui faisant croire qu'il y a des événements dans la maison. Et elle, à force, elle finit par vraiment penser qu'elle est folle. Quoi. Et le gaslighting dans les relations amoureuse, c'est une soirée où vous êtes en train de parler de quelque chose et puis vous rentrez et puis la personne vous dit « Pourquoi t'as dit ça ?» Et là vous dites « Mais j'ai jamais dit ça. Mais si, t'as dit ça. Non, j'ai jamais dit ça. Mais t'avais un petit peu bu, tu dois pas te souvenir, etc. » Et ça, tout ça, ce sont des choses en fait qui s'accumulent au fur et à mesure, au fil du temps. Et c'est évidemment un moyen de vous contrôler, un moyen de vous manipuler. Et c'est extrêmement dangereux parce que ça peut également vous conduire à vous couper de votre cercle d'amis et de relations, puisque bien souvent, on va s'appuyer sur des témoignages d'autres personnes qui parfois vont être de bonne foi en disant « je me souviens pas,
j'ai pas entendu,
voilà. » Et ça va vous faire douter. Et là, vous vous dites « effectivement, peut-être qu'il a raison ou qu'elle a raison. Je doute, est-ce que vraiment j'ai dit ça, etc. » Et ça vous fait vaciller. Ça vous fait perdre votre confiance en vous.
C'est vraiment la manipulation insidieuse qui va finalement vous faire croire que vous êtes folle alors que pas du tout. Et alors l'illustration de, comment s'appelle-t-elle, Maya Oran, elle est géniale. C'est un garçon qui dit « gaslighting, ça n'existe pas, tout ça c'est dans ta tête ». Et je la trouve très bonne. Et effectivement, c'est très insidieux en fait. La première expression « t'es folle, c'est dans ta tête », il faut fuir absolument et partir loin. À la lettre L, on a, alors c'est joli comme nom, hein, mais alors on a love bombing. C'est ça aussi, c'est enfin moi j'allais dire assez nouveau, mais en fait rien n'est nouveau là dans votre guide, dans votre
livre. C'est l'expression qui est nouvelle, hein, mais ceci dit, je pense quand même que c'est assez nouveau puisque c'est aussi très lié à des nouveaux modes de relations qui sont très liés sur à l'utilisation des réseaux et des téléphones portables, etc. Le love bombing, c'est quelqu'un qui va vous bombarder d'attention. Bombardé de messages, de petits mots doux, de cadeaux. Et là, vous êtes complètement... Oh, c'est incroyable. Ça y est, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Elle m'a envoyé 50 000 messages par jour. C'est génial. Oh, voilà, on part en week-end, direct. Enfin, et là... En fait, au bout d'un moment, vous vous apercevez que cette personne-là, elle vous bombarde littéralement pour mieux vous contrôler aussi derrière. Et ça, c'est vraiment accentué, je pense, aussi par notre utilisation des réseaux et des messages du téléphone.
Ouais, c'est le fameux exemple, en tout cas moi que j'avais, c'est on vient de se quitter le matin. Voilà, à 8h, et 8h30, 9h, premier SMS, t'es bien arrivé au bureau, tu me manques déjà, et on se concentre sur le « tu me manques déjà », et en fait, il y a « t'es bien arrivé au bureau avant », et donc dans le feu des émois, des débuts de relation, on dit « ah, oh, c'est trop mignon, tu me manques déjà », et puis en fait on fait pas gaffe, et puis les attentions, on peut les reprocher, enfin celui qui les fait peut les reprocher aussi à un moment, dire ah, dis donc moi je suis toute attentive ou attentif à toi, je te fais plein de cadeaux et puis en retour j'ai pas ce que j'ai envie. C'est
oui, et puis souvent on peut se heurter à des personnes qui vont brutalement cesser toute attention, Et ça peut être extrêmement violent puisque ça peut, c'est tout ou rien. Mmh. Hein. Souvent, c'est comme ça. Ça démarre du feu de Dieu et puis ça se termine par un blackout complet de la communication. Donc, c'est extrêmement violent. Alors, on a un autre red flag, c'est le chaud-froid, hein, mais c'est très lié hein, finalement. Hein. Ils sont souvent liés et ils se cumulent souvent. Hein.
Et d'ailleurs, ouais, c'est ce qui est écrit hein, à Love Bombing. Garde aussi en tête qu'au début de nos relations, les hormones se déchaînent, échange de phéromones, augmentation de l'adrénaline, dopamine, endorphine, testostérone. Et que, alors, il y a aussi l'ocytocine, hein, l'hormone qui va favoriser l'attachement, qui se déclenche quand on accouche, notamment. Et que ça, c'est en début de relation. Puis qu'à un moment, tout ça s'étiole. Et qu'effectivement, on peut passer au chaud-froid. J'ai une dernière sélection. On arrive à la lettre S. On a traversé l'alphabet un peu vite. À la lettre S, on a syndrome de la sauveuse. Le syndrome de la sauveuse et pas du sauveur, c'est ce qui est précisé dans les premières lignes. Alors, bien sûr, comme les autres, on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais il est assez terrible celui-là, il est assez dévastateur.
Alors oui, on entend souvent syndrome du sauveur. On a fait vraiment ce choix d'appeler ça syndrome de la sauveuse, même si on a reçu depuis de nombreux témoignages d'hommes disant qu'ils avaient aussi le syndrome du sauveur. Bon, voilà, j'ai pas répondu que c'était du mansplaining, mais je me suis retenue. Mais en tout cas, effectivement, le syndrome de la sauveuse, pourquoi ? Parce que nous, les femmes, nous sommes conditionnées dès l'enfance à prendre soin des autres. Voilà, c'est effectivement par le biais des jouets, par le biais de l'éducation.
On est élevé comme ça.
On est élevé comme ça. On est élevé sur... Et c'est pour ça aussi qu'on s'oriente prioritairement vers les métiers du care, du prendre soin, etc. Donc, effectivement, ce syndrome de la sauveuse, il est extrêmement présent dans toutes les générations. Parce que ça nous permet aussi de prendre une importance et donc un pouvoir sur l'autre. C'est pour moi un des plus dangereux. Parce que sous couvert de vouloir faire le bien, et aussi sous couvert du coup de vouloir se faire du bien, on entre dans une spirale où on finit par s'oublier. Et ça, moi, je l'ai vraiment observé chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes aussi, et de moins jeunes, mais c'est très présent ce côté « je te prends en charge, je te protège, je fais attention à toi ». Et puis, être avec quelqu'un qui ne va pas bien, bah, ça nous donne une raison d'exister, quoi. Donc ça, c'est vraiment un des plus dangereux parce que ça nous remet en question vraiment dans ce qu'on est au plus profond de soi-même.
Ouais, c'est effectivement celui avec le gaslighting qui peut, parmi les quatre notamment que j'ai choisi, qui peut faire le plus peur parce que c'est pareil, insidieux et puis on s'en aperçoit pas. Heureusement, à la page 115 du livre, il y a des exercices à faire. Alors c'est soit avant d'aller à son premier date, soit au retour de son premier date. Je trouve ça génial. Enfin génial, vraiment. Je me suis dit, mais j'en ai pour moi personnellement, j'en ai listé deux. Alors mince, maintenant j'en ai liste des points non négociables pour toi dans une relation. Donc il faut faire la liste. Voilà, il est de droite.
Ouais. Ça, c'est vraiment essentiel, je pense. En fait, pour vivre des très bonnes relations, il faut déjà se connaître. Alors, c'est pour ça que c'est un guide aussi qui s'adresse aux jeunes. C'est que ben, quand on commence, on ne se connaît pas forcément, on ne sait pas, on a envie d'essayer plein de choses aussi. Hein, donc c'est avec le temps aussi qu'on construit notre liste de points non négociables. Hein, mais en fait, je pense quand même qu'on le sait, même quand on est très jeune, parce que... il faut apprendre à se connaître et savoir vraiment ce qu'on veut. Alors, c'est pas facile, mais c'est plus facile de savoir ce qu'on veut pas. Ce qu'on veut pas et les points non négociables. Et bon, il y a des choses très évidentes, hein, effectivement. Là, les raisons politiques.
C'est les miennes, hein, ça n'engage que moi.
Voilà, ou les infractions à la loi. Hein, voilà, quelqu'un de raciste, etc., ou d'homophobe.
Ah oui, oui, oui.
Voilà.
Mais dans de droite, je dis... Non, pardon.
On peut cumuler aussi. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, sur les réseaux et tout, sur Insta, on va voir ouais, les red flags. Bah, moi, un point non négociable, c'est quelqu'un qui aime le fromage. Je déteste le fromage. Donc. Non, c'est pas ça un point non négociable. C'est pas ça un red flag. Quoi. Un red flag, c'est quelque chose, c'est pas quelqu'un qui a pas tes goûts. Un red flag, c'est quelque chose qui va vraiment faire en sorte que tu vas te remettre en question dans ce que tu es, dans ce que tu aimes faire, dans ce que tu détestes aussi. Donc cette liste de points non négociables, elle est vraiment essentielle à faire. Et ça peut être fait avant d'avoir des relations. Et puis elle peut évoluer, elle peut s'enrichir au fur et à mesure des rencontres aussi.
C'est hyper pratique ces pages d'exercice. Et puis enfin, et ça j'ai trouvé ça aussi vraiment bien, notamment pour les plus jeunes ou celles et ceux qui n'ont pas une culture féministe, parce que j'ouvre la page, je vois Mona Chollet, Virginie Despentes, il y a des conseils lecture, donc Mona Chollet, Virginie Despentes, pour Victoire Tuyon aussi, hein, Les couilles sur la table, et ça, j'imagine que ça a été dur à faire ces conseils lecture, parce que vous auriez pu faire un guide de conseils lecture.
Non, bien sûr, on s'est axé sur les essentiels. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a vraiment fait un gros travail dans ce livre pour qui s'adresse vraiment à tout le monde, quelle que soit son orientation sexuelle et quel que soit son genre. Et d'ailleurs, il y a eu un gros effort de fait aussi sur les illustrations pour avoir des situations qui soient avec des couples hétéros, des couples homos, filles, garçons, etc. Donc on a vraiment fait cet effort-là. Et du coup, les conseils de lecture, ce sont des conseils de lecture alors qui sont évidemment très orientés sur la dénonciation du système patriarcal, parce que tout ce qu'on a dénoncé là, c'est très souvent en lien avec le patriarcat, mais les garçons sont également victimes du patriarcat. Donc, les conseils de lecture, ils vont vraiment faire en sorte à la fois de prendre conscience du système dans lequel on est et dans lequel on vit nos relations amoureuses, mais également, il y a d'autres conseils qui sont plus autour de l'estime de soi, du développement personnel, etc.
D'ailleurs, moi, je vais le ramener à la maison, puisque c'est le mien, et je vais le laisser en vue, puisque j'ai un ado et une ado, et je pense que pour les deux, moi j'allais venir, pour les garçons aussi, ils peuvent subir des choses ou avoir des comportements et peut-être se dire ah ouais, le body count en fait c'est vraiment du caca. En tout cas, moi je vous le conseille vivement, je l'ai trouvé dans une boutique, une librairie Place du Parlement. Voilà, c'est pas très loin. Ça s'appelle Red Flag en amour, petit guide pour esquiver les relations toxiques. C'est donc écrit par Anne Latuile avec Jessie Magana, c'est aux éditions Cirrose et c'est illustré par Maya Oran. Ben achetez-le vraiment et puis ça peut, je vous le prêterai Marine, j'allais dire. Merci. Ça peut faire achat.
Je suis en train de me dire, il va falloir aussi.
Ouais, donc, mais comme vous m'aviez promis quelques livres, cucu, oui, tout ça, ah, que oui, j'ai toujours pas eu.
D'accord. Alors, je sens un petit chantage à la littérature.
Vous m'amenez ouais, exactement. Vous m'amenez cucu de Camille Emmanuel et je vous prête le livre.
Prochaine émission, c'est acté.
De Jessie. Portez-vous bien, prenez soin de vous, fuyez les red flags. De Boule Vanille, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi prochain pour écouter la suite des épisodes enregistrés et produits par l'Onde Porteuse et le CESE autour des droits des femmes, des médias, de la démocratie. Salut.
De Boule Vanille,
je pense que je vais prendre deux boules vanille.
Je sais pas.